Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Speakers Corner qui est dédié aux femmes architectes et ingénieures. Comme vous le savez, le 8 mars dernier avait lieu la Journée internationale des droits des femmes. Et donc, on s'est naturellement emparé du sujet comme on avait pu faire l'année dernière. Ce Speakers Corner, il intervient aussi à la suite de cet événement que nous avions fait à la Cité des Sciences. C'était un événement qui s'appelait Femmes ingénieures et on y reviendra avec Louise qui nous le présentera un peu plus en détail. Ce qui était intéressant aujourd'hui pour ce Speaker's Corner de mettre en avant, c'était que finalement, la Cité des Sciences, et comme beaucoup d'entre nous, était partie de ce constat que les métiers de l'ingénierie, finalement, sont plutôt masculins. Mais qu'en est-il de la réalité? C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Quand on a préparé le Speaker's Corner avec Christine, on s'est rendu compte que finalement, tout n'était pas tout noir ou tout blanc. Et j'en veux pour preuve nos trois speakers du jour, qui sont toutes des femmes et qui sont dans ce milieu. Donc, nous avons avec nous Mathilde Miqueux, qui est directrice de travaux et qui est aujourd'hui à La Réunion sur le projet de l'aéroport de La Réunion. Et nous avons également Louise Arfroy, qui est ingénieure énergéticienne à l'agence de Nantes. Et finalement, Mathilde Florentin, qui n'est pas d'AIA, mais qui est architecte-ingénieur et qui fait partie de l'association 2A2IA, association architecte-ingénieur et ingénieur-architecte, qui nous parlera donc de son rôle. Alors, je m'adresse maintenant à mes speakers. J'ai envie de commencer par vous poser une question qui paraît un peu évidente. Si les métiers de l'ingénierie et de l'architecture sont si masculins, qu'est-ce qui finalement vous a poussé à faire ces métiers? Et donc, je vais d'abord me tourner vers Mathilde Florentin. Donc, toi, tu as un profil qui est intéressant puisque c'est un profil double architecte-ingénieur. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée à ce profil et comment tu en es arrivée là?
Alors, la construction a d'abord fait partie de mon enfance puisque mon père est ingénieur de travaux. Donc, et avec lui sur les chantiers, il nous ramenait des grands plans à la maison pour dessiner. Ça n'a pas fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mais ça, on va dire, éveillé ma curiosité et m'a fait découvrir assez tôt le monde du bâtiment. Après, la construction représente un vaste sujet qui, je pense, marie aussi bien créativité et technicité. Et c'est véritablement ce qui m'a poussée à choisir cette voie et spécifiquement à m'inscrire dans donc ce double cursus. Cette double formation, elle offre un regard sur l'acte de construire qui croise aussi bien la partie conception, donc création, que la partie technique et constructive de l'architecture et même matérielle de l'architecture. Donc ces deux pans en fait de l'acte de construire et le rassemblement de ces deux pans, c'est le fondement de ce qu'on appelle le binôme architecte-ingénieur. En France, par l'histoire et par l'émergence de ces deux métiers, les pratiques sont aujourd'hui séparées, même si AIA montre qu'on peut les rassembler au sein d'une même entité, mais quand même des pratiques qui sont assez dissociées en tant que pratiques personnelles. Pourtant, la double formation apporte la possibilité véritablement de créer des passerelles et au sein des écoles, on en parlera, mais aussi au sein de la pratique professionnelle. Néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même cette obligation de choix et du coup, l'association cherche aussi à accompagner les étudiants dans cette voilà, manière de concevoir sa carrière. Mais ce choix est toujours en fait à l'encontre de, enfin, cherche à ne pas renoncer à la transversalité qu'apporte la double compétence et à la double culture que donc la formation apporte aussi au sein des différentes entités de formation. Et puis les doubles formations, alors maintenant il y en a énormément en France, il y en a donc à Lyon, à Paris, presque toutes les écoles d'architecture en France proposent ces éléments-là. Donc ils permettent vraiment de suivre le cursus dans les deux écoles et on verra, c'est une vraie importance pour la question du genre.
Merci de nous avoir présenté donc ce double diplôme. Effectivement, c'est vrai que quand on a échangé sur le sujet, même toi, Mathilde Miqueux, pour le coup, tu m'avais dit que tu avais hésité avec ce diplôme qui, pour tout ce qu'on vient de dire à l'instant, est très intéressant finalement. Donc toi, finalement, comment tu as fait ce choix, puisque tu es donc aujourd'hui directrice de travaux?
Ah, donc bonjour à tous. De mon côté, depuis que je suis toute petite, j'ai eu envie de faire médecine. Donc rien à voir avec le milieu du bâtiment ou de l'architecture. Et en fait, j'ai eu la chance en terminale de rencontrer une femme, ingénieure et architecte, parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas l'association 2A2IA, malheureusement. Et cette personne-là a accepté de me prendre en stage pour quelques jours. Et en fait, ça a été une vraie révélation. Donc j'ai changé mes vœux sur admission post-bac au dernier moment. Et je savais pas si je voulais faire archi et après ingénieur, ou d'abord ingénieur et après architecte. Et comme l'a dit Mathilde, bah, c'est vraiment une question de choix, en fait, à la base, quand on sort du bac. Et pour ma part, j'ai fait le choix de commencer par une école d'ingénieur. C'est un choix tout simple, c'est que j'adorais la biologie, j'avais envie de continuer là-dedans, et le fait de choisir une école d'ingénieur généraliste, ça me permettait d'avoir un an de plus pour me décider, et donc j'ai choisi d'abord l'école d'ingénieur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne me suis pas du tout posé la question de savoir s'il y avait plus de femmes en école d'architecte ou en école d'ingénieur. Ça, la question ne s'est jamais posée. Pour moi, j'ai choisi vraiment la formation qui m'intéressait. Et puis, au moment donc du choix de cette formation, je voulais absolument faire le double diplôme avec architecture. Et puis en fait, la vie est telle qu'elle est, il s'en est passé autrement. Pendant mon cursus d'ingénieur, j'ai eu la chance de créer une association qui s'appelle Unity Cube avec des amis de mon école, de l'INSA. Et cette association, en fait, permet le montage d'opérations d'hébergement d'urgence ou d'urbanisme transitoire à des fins solidaires. Donc, par exemple, on va monter des modules d'hébergement d'urgence dans des bureaux inoccupés. Et ça m'a permis de valider un diplôme d'entrepreneuriat et pas un diplôme d'architecture. Donc, il est encore temps de passer ce diplôme d'architecture. Mais c'est une bonne expérience, notamment sur la question du genre, puisque ça m'a permis de passer d'un milieu de l'ingénieur qui est très masculin à un milieu de l'entrepreneuriat qui est encore plus masculin. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une forme de discrimination positive pour les femmes dans ces milieux-là qui sont très masculins, puisqu'il y a des concours, par exemple, d'entrepreneuriat qui sont vraiment réservés aux femmes entrepreneurs. Et ça, quand on est à l'extérieur de ces milieux-là, on ne s'en rend pas forcément compte. Et même dans les écoles d'ingénieurs, je trouve qu'il y a une forme de solidarité féminine, notamment, par exemple, avec des marraines qui vont chapeauter des étudiantes ingénieures dans ces écoles.
Ce genre de solidarité, comme tu dis, et même cette notion de discrimination positive, elle existe dans plein de types d'endroits et effectivement de plus en plus même dans la formation. Toi, Loïse, pour le coup, tu as fait une formation mono-matière, on va dire, même si évidemment ça se contente pas du tout à ça puisque c'est très large, mais tu as fait une formation d'ingénierie avec une spécialité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est exactement ça. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste parce qu'un peu comme toi, Mathilde, j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais nécessairement faire. Et dans cette logique-là, je voulais garder le plus de portes ouvertes et petit à petit les fermer en fonction des expériences, des projets, des rencontres, etc. Et donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers ce choix. Et c'est aussi comme ça, finalement, que j'ai découvert AIA, donc une agence qui regroupe plusieurs corps de métiers différents et qui non seulement permet de travailler dans son secteur, on va dire, mais en même temps d'échanger avec plein d'autres corps de métiers et de se faire évoluer, on va dire, involontairement, mais en apprenant au contact des autres. Au-delà de découvrir une entreprise, j'ai découvert un monde, un milieu, un secteur du bâtiment qui n'est pas toujours très bien représenté dans les écoles généralistes. Enfin, c'est un milieu qui est parfois masqué, on va dire. Et donc, bien évidemment, on pourrait dire tous les clichés possibles et imaginables sur le secteur du bâtiment, comme quoi c'est un secteur très masculin. Mais ça n'a pas été une entrée dans l'équation pour choisir mon orientation. Ce que j'entends, c'est que je ne me suis pas posé la question « Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le milieu pour choisir ça ?» Ça a été un non-sujet pour moi. C'était « Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que ça m'intéresse ?» Et en fonction de ça, je me suis orientée vers ce qui me plaisait, ce qui m'intéressait, en l'occurrence ce métier, ce poste d'ingénieur énergéticienne, en l'occurrence chez AIA. Et donc on peut retrouver ces disparités dans plein de corps de métier, on va dire, de l'ingénierie. Mais après, il y a, comme partout, c'est pas, comme tu disais en introduction, Charlotte, c'est pas tout blanc ou tout noir. Typiquement, dans le poste que j'occupe actuellement, ingénieur énergéticienne, on est 7, toute agence confondue. Donc pour être ingénieur énergéticien ou ingénieur énergéticienne. Et en l'occurrence, on est 4, donc l'égalité est globalement là, enfin l'égalité, la parité. Mais ces disparités-là, en fonction, on va dire, des secteurs sur lesquels on vient regarder et se concentrer, on la retrouve également en école. Ce que j'entends, c'est, par exemple, en école d'ingénieur, tous les métiers qui vont être orientés, comme tu disais tout à l'heure, l'exemple de la biologie, côté santé, le côté urbanisme, environnement, etc., énergie. Finalement, on va retrouver, je ne dis pas 50% de femmes, mais 40% facilement de femmes, là où d'autres options plus techniques, plus orientées, on va dire, informatique, technique, électronique, virtuelle, modélisation, etc., les femmes sont un peu moins représentées. Et là, la proportion de femmes peut tomber à 5-10%. Enfin, on retrouve vraiment ces inégalités en école comme on peut les retrouver finalement dans le monde de l'entreprise sur le terrain derrière, quoi.
Oui, on va panier qu'il y a quand même beaucoup de chemin à parcourir. Ça, on le voit effectivement dans les formations, comme tu dis. Il y en a certaines qui montrent clairement que voilà, la parité n'est pas encore respectée. Mais vos profils, finalement, ce sont la preuve que les choses évoluent. Donc, c'est très bien. Maintenant, si on entre un peu plus dans votre quotidien, donc votre métier, est-ce que vous trouvez que finalement votre genre change quelque chose? Je pense par exemple à toi, Mathilde Miqueux, qui est directrice de travaux. Tu as les pieds dans le chantier qui est pour le coup un milieu qui est majoritairement masculin. On le voit tous particulièrement dans nos métiers. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe pour toi au quotidien?
Alors ça, déjà, premièrement, ça se passe bien, ça se passe même très bien, mais non. Pour revenir sur le sujet, c'est vrai que c'est un milieu qui est très masculin, ça on peut pas le nier. Quand on se promène sur chantier, on croise principalement des compagnons et on croise très peu de femmes. Et en fait, dans la chronologie même d'un projet, on se rend compte que plus on se rapproche de la phase chantier, moins il y a de femmes. En fait, il peut y en avoir beaucoup en conception, puis de plus en plus en chantier, il y en a de moins en moins. Notamment en tant que directrice de travaux ou dans la DET, il y a une féminisation quand même qui est en cours. Moi, je l'ai vu notamment chez IAMP Paris, où on est de plus en plus de femmes à faire de la DET. Donc, on se rend compte qu'on se rapproche de plus en plus du chantier de ce point de vue-là. Et étonnamment, en tout cas pour ma part, j'ai toujours travaillé avec des femmes sur chantier. Quand j'étais côté entreprise ou côté maîtrise d'œuvre, j'ai toujours eu une femme chef de service ou une directrice de travaux. Donc, c'est vrai que c'était assez naturel d'être sur chantier. J'ai jamais senti justement que je rentrais dans un milieu d'hommes, mais c'était déjà le cas peut-être avec l'école d'ingénieurs et l'entrepreneuriat, qui fait qu'en fait c'est venu tout naturellement. Là où par contre je m'en suis rendu compte, c'est quand je suis arrivée sur le projet de la Réunion. Donc je crois que vous avez une photo qui va vous être partagée. Donc le projet est en train d'avancer, on voit les premières élévations. Et quand je suis arrivée sur ce projet, donc c'était en début d'année, là je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment que des hommes. Première réunion avec les co-traitants locaux, il n'y avait que des hommes en maîtrise d'œuvre. Et sur chantier, on est seulement deux femmes et on est deux Mathilde en plus. Donc c'est rigolo, pour les compagnons, c'est plus simple. Et je me suis rendu compte à la réunion aussi qu'il y a une grande curiosité des compagnons pour ces questions-là d'être une femme sur un chantier. C'est la première fois qu'on me pose autant de questions sur qu'est-ce que j'ai fait comme études, qu'est-ce que je fais réellement, quel est mon métier sur le chantier. Combien d'années d'études il faut, etc. Et j'espère que ça fait changer un peu les mentalités et qu'on verra peut-être bientôt des jeunes filles réunionnaises aussi sur les chantiers, et notamment sur des chantiers emblématiques comme celui de l'aéroport de La Réunion, en tout cas emblématique pour l'île de La Réunion. On avait Louise qui nous parlait des clichés du bâtiment. Sur chantier, j'ai l'impression que c'est encore pire. On peut dire qu'il y a encore plus de clichés sur un chantier. Après, c'est vrai que de plus en plus, quand même, les chantiers, on va dire, se féminisent dans le sens où, par exemple, dans les bungalows des bases-vie, on va avoir des sanitaires et des vestiaires pour les femmes et réservés aux femmes, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Et il y a une petite anecdote aussi que je voulais vous partager. À La Réunion, il y a notamment beaucoup d'entreprises de plomberie qui sont gérées par des femmes et qui embauchent beaucoup de femmes, de compagnons. Et ça fait qu'on se retrouve à La Réunion avec des chantiers où il n'y a que des hommes, mais il n'y a que des plombières. Donc là-dessus, c'est assez rigolo et je n'avais jamais rencontré ça en métropole.
Donc là, on a parlé de la partie chantier, mais finalement, cette perception, elle est un peu différente selon les métiers. On l'a vu avec ce que tu disais, toi, Loïse. Et Mathilde Florentin, toi, donc, tu fais partie de l'association 2A2IA, qui est donc une association qui mixe finalement les profils. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer de quoi il s'agit et sa raison d'être?
L'association 2A2IA a été créée il y a plus de 4 ans maintenant, après un certain nombre de conférences qui avaient été organisées un peu de manière informelle sur les thèmes de l'interaction entre architecture et ingénierie. Elle a été créée pour promouvoir la double compétence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons réélu un CA avec à la tête une présidente qui est une femme, qui est Léa Delbar. L'association, elle a pour vocation de penser et d'encourager la culture de la transversalité entre les ingénieurs et les architectes. Nous interrogeons les synergies dans le métier et nous cherchons à valoriser le partage des acteurs de la construction, quel que soit leur rôle dans l'acte de construire, en promouvant particulièrement la double compétence. Il s'avère que je pense qu'aujourd'hui, cette double compétence est un vrai enjeu de mixité au sein des écoles, que ça permet en fait de croiser deux promotions. D'un côté, les écoles d'architecture qui sont quand même devenues très féminines, et c'est très bien. Et de l'autre côté, les écoles d'ingénieurs qui restent encore aujourd'hui, surtout dans des écoles spécialisées dans le bâtiment, restent aujourd'hui plutôt des promotions très masculines. Donc les doubles diplômes qui sont toujours dans la plupart des formations croisées, c'est-à-dire des architectes intègrent les écoles d'ingénieurs et des ingénieurs intègrent les écoles d'architectes, permettent de créer une mixité au sein des promotions, d'apporter des gens qui donc portent cette double culture, mais aussi du coup modifient un peu les relations et les proportions de genre au sein des écoles. Et pousse aussi des jeunes femmes qui choisissent une ou l'autre des formations de se confronter à des milieux qu'elles n'auraient pas forcément choisis en premier abord. Donc ça, je pense que c'est un vrai outil de mixité dans les formations, ces doubles compétences. Et comme ça apporte de la double culture, ça apporte vraiment beaucoup de choses aux écoles en elles-mêmes. Cette mixité, on la retrouve aussi, donc, je pense, au sein de la profession et autour des projets. Moi, je voulais vous partager qu'au sein de mon agence, on a développé un projet. Le dernier projet que j'ai développé, autour de la table, il n'y avait que des femmes en maîtrise d'œuvre, aussi bien chez les ingénieurs que chez les architectes, que chez les paysagistes, que dans le bureau d'études à façade. On était une équipe féminine. Alors après, c'est en maîtrise d'ouvrage où il y avait là beaucoup moins de mixité. Et c'est un peu le sujet aussi de la position aujourd'hui, on a beaucoup de femmes dans les équipes, mais elles ne sont pas forcément aux postes les plus élevés. Donc voilà, ça c'est un peu l'autre travail qui devra s'enclencher. Mais voilà, la double formation, elle ouvre, je pense, une possibilité de carrière très large qui permet aux femmes de se projeter dans de nouveaux métiers, là où on ne les attendait pas forcément avant. Entre autres en DUT, par exemple, il y a beaucoup de jeunes chez nous, de jeunes femmes qui sont ingénieures architectes, qui choisissent cette position de suivi de chantier en tant que maître d'œuvre. Et je pense que ça apporte aussi beaucoup au chantier. Donc cette double formation, elle permet aux femmes de se projeter dans de nouveaux métiers, mais aussi avec leur double casquette, de prendre une place plus importante au sein des équipes et des agences, en s'imposant avec une véritable compétence. Donc ça, c'est aussi, je pense, un point très positif pour les jeunes femmes qui prennent cette formation. Et si vous me permettez, j'en profite pour mentionner la prochaine actualité de l'association, qui est donc l'apparition, suite à l'apparition de cet ouvrage que vous voyez ici, qui s'appelle « L'esthétique des structures », qui est le premier ouvrage de l'association auto-édité, et qui rassemble les témoignages d'architectes et d'ingénieurs autour de l'enjeu de l'acte de construire, et spécifiquement le thème qui a été choisi pour cette première apparition, c'est l'esthétique des structures. Nous présenterons l'ouvrage à Lyon le 24 mars, à la librairie L'Archipel. Voilà, avec deux intervenants, Olivier Cana, donc de chez AIAC, qui présentera son article sur la maison des avocats, et Théodora Barna, qui est une jeune femme étudiante qui, je crois, vient d'avoir son diplôme d'architecte ingénieur, et qui présentera son ouvrage sur le revêtement. D'ailleurs, si on regarde l'ensemble des contributions de l'ouvrage, parce que avant cette conférence, je me suis un peu attardée sur les contributeurs, on a à peu près 30% quand même de femmes, mais on se rend compte que c'est principalement des jeunes femmes, là où les contributeurs hommes sont plutôt, on va dire, de tout âge et de tout métier. Les femmes sont plutôt des jeunes femmes, et voilà, ce qui montre qu'une nouvelle génération arrive dans ces métiers d'architecte et d'ingénieur et prendront, je pense, dans les prochaines années, une place encore plus importante.
Là, on voit bien finalement que le double diplôme, comme on le disait tout à l'heure, ça a un peu cet effet de pousser la mixité tant dans les métiers que dans les genres, et finalement la parité également. Donc c'est une très bonne nouvelle, particulièrement quand tu parles de la nouvelle génération. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des jeunes qui s'engagent pour cette mixité et sur plein d'autres sujets. C'est une nouvelle génération qui est très engagée. Donc finalement, les profils de genre sont par extension, eux aussi, brouillés via ces différents profils.
Au sein de l'association, il y a vraiment un sujet aussi d'exemplarité qui était de donner l'exemple, l'idée que on est là aussi pour montrer la possibilité aux jeunes de prendre place au sein des projets, dans des rôles qui leur sont pas forcément attribués Et ça, c'est un des vrais enjeux de l'association aussi. Les études sont très longues et très dures. Et on a beaucoup de gens qui se démotivent, enfin, qui perdent l'envie d'aller jusqu'au bout au fur et à mesure des années. Et du coup, d'avoir cette, comme tu le disais d'ailleurs Mathilde, cette rencontre qui permet en fait de lancer, en fait, de montrer que les choses sont possibles. Et ça, c'est un des derniers, enfin, des enjeux aussi de l'association, c'est d'ouvrir cette vision aux jeunes femmes qui rentrent aussi bien d'ailleurs dans les écoles d'architectes que dans les écoles d'ingénieurs.
Tu parles beaucoup de tout ce qui est les études et l'exemplarité et finalement c'est l'éducation. Loïse, toi sur la question, tu as une expérience finalement qui était complètement dans le vif du sujet récemment, donc c'était l'événement Femmes ingénieures à la Cité des Sciences auquel tu étais médiatrice. Donc comme je le disais d'entrée de jeu, la Cité des Sciences mettait en fait en avant ce constat que la féminisation des métiers de l'ingénierie, elle n'était pas encore tout à fait là, mais justement qu'il fallait la pousser, montrer que c'était possible et montrer que c'était accessible aux jeunes filles. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ce moment, ce que tu y as fait et comment tu as présenté ça?
Oui, c'est ça. Les 11, 12, 13 février dernier, on était à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Donc, on était 5 ingénieurs de AIA, donc ingénieurs avec un E, ça s'entend pas malheureusement, mais c'est le cas. Mais on était 5 et dans l'idée, c'était un peu de présenter différents métiers de l'ingénierie au sens général du terme. Donc, il y avait plein de secteurs différents. Enfin, il y avait l'aéronautique, le secteur bancaire, enfin, divers et variés. Et nous, on était la seule entreprise à représenter finalement les métiers du secteur du BTP. Et donc, on s'intégrait dedans pour montrer donc déjà quel était notre métier au quotidien et un peu sensibiliser les gens directement à ce secteur-là et à ces professions-là. Qu'on avait mis en place plusieurs petites activités. Donc, on avait deux grosses activités, on va dire, et d'autres un peu plus petites. Donc, comme on peut les voir à l'image-là, on avait la fresque de la construction, qui est une activité très largement inspirée de la fresque du climat, mais pour visualiser les différentes étapes d'un processus de construction d'un bâtiment. Là, ça permettait de voir tout le processus et de conception et de construction et de qu'est-ce qui se passe après que les clés aient été données, qu'est-ce que ça implique. Donc ça, c'était une des premières activités. L'autre qu'on peut voir encore une fois, c'était l'atelier Terre Crue, où on a fabriqué des petites briques de terre. Donc, c'était pour sensibiliser à un autre vecteur de construction que le béton un peu plus classique. Donc, ça, c'était nos deux gros ateliers. Et donc, en fonction du public qui venait nous voir, on les orientait plutôt vers l'un ou vers l'autre. Par contre, l'orientation, c'était pas il y a un atelier pour les garçons et un autre pour les filles. C'était pas du tout comme ça. Ou c'était pas je vais parler que aux petites filles parce que c'est femmes ingénieures et pas enfants ingénieurs ou autre. Donc l'idée, c'était on n'adaptait pas notre discours en fonction du sexe de la personne qui venait nous voir ou échanger avec nous. C'était plutôt en fonction de sa sensibilité, de sa tranche d'âge, de sa curiosité, du temps qu'elle avait finalement, parce qu'il y a certaines activités qui étaient plus longues que d'autres aussi. Donc c'était en fonction de à l'instant T comment les gens se sentaient. Et je pense que une distinction entre un discours à porter un petit garçon et une petite fille, ça aurait été peut-être inapproprié en fait dans la démarche finalement, parce que ça aurait été à l'inverse. Donc là, c'était de servir innocemment le discours un peu du BTP, de sensibiliser à tout ce secteur-là, sans nécessairement, dans un premier temps, axer sur les questions d'hommes ou de femmes. L'objectif, c'était de sensibiliser au métier du bâtiment en général, en montrant certes que c'était des modèles féminins finalement qui en étaient les acteurs, parce que bien souvent, comme tu disais Mathilde, sur les chantiers, etc., la porte d'entrée qu'on a, c'est un secteur très masculin, et donc là finalement, c'était de montrer que des femmes pouvaient le faire, et on s'adressait non seulement, comme tu dis, à des enfants à qui on leur faisait faire un peu les activités ludiques, mais on le faisait aussi avec des parents. Il y a des enseignants qui sont venus, par exemple, il y avait plein de personnes qui viennent avec leur bagage identitaire, ce qui fait que ça amène plein d'autres questions. Et finalement, les enfants se disaient « Ah, est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas cool ?» Les parents se disaient « Ah, ça pourrait être un métier pour ma fille. » Enfin, c'est pas quand même demandera « Est-ce que je pourrais pas travailler dans le secteur de l'architecture, du bâtiment ?» Par réflexe, je ne dirais pas non, parce qu'en soi, j'ai vu que c'était possible aussi. Je viens pas avec finalement tout mon bagage un peu de cliché finalement. Là où des enseignants, pareil, peuvent avoir aussi un certain rôle à jouer vis-à-vis de leur classe, en leur proposant une manière d'aborder certains sujets, en élargissant leur champ des possibles, en leur proposant diverses choses et sans être trop restreignant, en se disant le secteur du bâtiment, je ne peux pas le proposer à tous mes élèves, etc. Donc finalement, c'est toutes ces petites expériences-là et tous ces petits parcours de vie avec lesquels on a pu passer un peu de temps, j'espère qu'on a pu semer une petite graine ici et là, et en espérant que soit ça se développe finalement chez cette personne avec qui on a pu interagir, soit que cette personne devienne elle-même un vecteur par la suite pour autrui et faire en sorte que tout ça finisse par s'étendre et devienne un peu plus la normalité, de se dire c'est pas choquant de voir une femme dans le secteur du BTP, c'est normal maintenant. Ça, c'est l'objectif à terme.
Un bel objectif et je pense qu'on espère toutes et tous que ça arrivera aussi vite que possible. Donc voilà, on arrive au terme de notre Speaker's Corner. Je vous remercie toutes d'avoir participé à ce moment de partage. C'était extrêmement intéressant, même le moment où on a préparé ce Speaker's Corner, parce qu'il y a toujours un moment de préparation avant. Les discussions étaient très enrichissantes. Merci à toi Mathilde aussi d'avoir, Mathilde Florentin, puisqu'on a deux Mathilde, d'avoir pris le temps de discuter avec nous de l'association. Voilà, c'est tout pour nous. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.